Salut, ici Guillaume Hachet. Vous écoutez 70 minutes avec. Salut tout le monde. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis vraiment navré pour tout le retard que j'ai pris dans la publication de l'épisode. Le mois de mars a été absolument ingérable pour moi. J'aurai quelques nouvelles importantes à partager en fin de cet épisode, notamment en ce qui concerne la fameuse formation que je vais donner en avril. Donc écoutez bien jusqu'au bout. Aujourd'hui, un épisode très particulier puisque c'est tout un témoignage, un partage d'expérience de la part d'un profil qu'on entend très rarement, à savoir un fou. J'en avais parlé il y a quelques mois dans un édito, j'ai assez peu de patience pour les personnes qui emploient des mots comme schizophrène alors que très clairement ils ne savent pas de quoi elles parlent. Du coup, on prend le temps de parler avec mon invité de sa schizophrénie, de la psychophobie qui habite notre société, de l'institution qu'est la psychiatrie et du mouvement qui s'y oppose, à savoir l'anti-psychiatrie. C'est aussi la toute première fois que j'interview quelqu'un sous pseudonyme et on explique pourquoi dans l'interview. C'est parti!
Et tu vois, ça, c'est quand t'entends des voix, c'est sympa parce qu'elles sont toutes en train de réfléchir à haute voix en même temps. Du coup,
au bout d'un moment,
c'est un peu chiant.
Tu peux leur dire bonjour pour moi.
Ça marche.
J'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Dandelion. Bonjour Dandelion.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore?
Ouais, bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Dandelion, j'ai 32 ans. Je suis doctorant en études théâtrales. Je suis auteur, puis j'ai eu plein de casquettes par le passé. J'ai plus de travail rémunéré actuellement, mais j'ai été prof à l'université et en cours particulier. Je suis traducteur et sinon, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je suis, pour le dire avec les mots du médical, schizophrène paranoïaque. Et pour le dire avec mes mots à moi, je suis fou et entendeur de voix. Et dans ce cadre-là, je tiens un blog autour de la folie, pour permettre aux gens dans la même situation que moi d'avoir des outils pour comprendre ce qui leur arrive et mieux le vivre au quotidien.
Voilà, et donc on va parler ensemble donc de tes sujets, à savoir donc la folie, la schizophrénie, la psychophobie, la psychiatrie, tous ces sujets connexes. Puisque voilà, j'ai remarqué, j'ai cru comprendre que énormément de gens était familier avec ces notions, mais en fait très ignorant, et disait beaucoup de bêtises à ce sujet. On sait que le mot schizophrène, on va revenir là-dessus, est souvent employé par les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc on va explorer tous ces sujets-là ensemble. Et donc on précise que on te présente uniquement par ton prénom, parce que voilà, tu souhaites garder un anonymat relatif. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Pourquoi? C'est assez simple justement parce que la schizophrénie c'est encore un mot qui fait énormément peur et du coup les personnes schizophrènes subissent beaucoup de stigmatisation et qu'effectivement si je suis ouvertement décrit comme schizophrène, je m'expose à certaines violences. Voilà, c'est pas rare de perdre son emploi quand on est connu comme schizophrène. Moi, dans le cadre universitaire, j'ai dû faire face régulièrement à des profs qui passent 10 minutes à t'expliquer que les personnes folles ne sont pas capables de réfléchir. Ce genre de choses. J'ai eu des profs aussi qui m'ont expliqué des yeux dans les yeux que parce qu'ils supposaient que telle personne était potentiellement psychotique, on ne pouvait pas croire un traître mot de ce qui était dit. Donc effectivement, moi, je vis avec l'inquiétude que si ça se sait trop à l'université que je suis schizophrène, tout le travail de recherche que je fournis soit complètement dévalorisé et mis à la poubelle et que je n'ai pas le droit de soutenir, par exemple. Voilà, et c'est des choses qui potentiellement se sont vues, donc je suis un peu obligée d'être un sous-marin.
Oui, c'est très légitime et on comprend tout à fait. Et du coup, je disais il y a une seconde que les gens connaissaient le mot schizophrène, mais en fait ne savaient pas ce que ça voulait dire. Est-ce que tu peux expliquer aux gens, pour commencer, pour introduire le sujet tout doucement, mais qu'est-ce que c'est en fait la schizophrénie?
Alors c'est pas évident puisque c'est une maladie où effectivement c'est très différent en fonction des personnes, mais dans ce qui va se retrouver en général, on a deux grandes catégories de symptômes. On a ce qu'on appelle les symptômes positifs, donc qui ajoutent quelque chose. Donc dans cette catégorie-là, tu vas avoir tout ce qui est de l'ordre des hallucinations. Donc, tout le monde n'hallucine pas, mais tous les schizophrènes n'hallucinent pas, mais il y en a. Tu vas avoir tout ce qui est de l'ordre du délire. Et donc là, tu as des grandes familles de délires qui existent. Tout ce qui va être des délires de persécution. Tu as les délires domination, tu vois, quand t'es le roi du monde ou quand tu es dieu, les délires où tu es persuadé que telle personne est amoureuse de toi, etc. Enfin, voilà, il y a plusieurs grandes familles comme ça. Et plus généralement, ça va être une difficulté à distinguer ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et de l'autre côté, on va avoir tout ce qui est de l'ordre des symptômes négatifs. Donc là où on enlève quelque chose. Donc ça va être des difficultés de concentration, des difficultés à reconnaître ses émotions ou à en avoir des fois carrément. Ça va être des difficultés cognitives. Donc quand il faut déclencher une action, quand il faut la faire. La perception du temps en général elle est abîmée, la mémoire peut être compliquée aussi, et donc en fonction des personnes, voilà, ça va aller piocher un petit peu dans ces différents éléments à des degrés plus ou moins élevés.
Ok, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de ton expérience à toi, est-ce que donc du coup tu es diagnostiqué depuis combien de temps et quel rapport tu as avec ce diagnostic?
Alors moi, dans mon expérience à moi, la schizophrénie, c'est énormément d'hallucinations. J'ai un cerveau qui est très productif là-dessus, là, il est très très doué là-dessus. J'entends des voix avec lesquelles je vis plus ou moins en paix maintenant. Je suis paranoïaque et j'ai plusieurs délires en fonction des périodes. Donc moi, je suis dans des délires notamment de corps qui pourrit beaucoup et du fait que j'ai autres délires où je n'existe pas. Tout simplement. Je suis diagnostiquée depuis mes 20 ans à peu près, donc ça fait une bonne douzaine d'années, et mon rapport au diagnostic, il a évolué au fil du temps. Ça a été un peu compliqué au début, parce qu'on te balance un peu ce mot-là. En plus, enfin, c'est une histoire un peu chelou, mais au moment de diagnostic, j'ai été diagnostiquée sans l'être, et le psy m'a à moitié engueulée au moment de... C'était très bizarre. Mais c'est pas le sujet.
Ce sera le sujet après, hein, le rapport du corps médical à la folie de manière générale. Ouais. Mais on y arrivera dans un instant.
C'est ça. On va essayer de pas tout embrouiller dès le début. Donc j'ai été diagnostiquée sans que ça a été sous-entendu, mais on me l'a pas dit officiellement, mais très clairement ça a été fait dans mon dos, comme souvent de toute façon. Et donc au début c'était plutôt le coup de massue et un peu de déni aussi, et moi je ne supportais pas le fait que tout le monde me considérait comme malade. En fait, dès le début j'ai eu un problème avec le fait qu'on me dise que je sois malade, parce que je trouvais que ça ne correspondait pas à l'expérience que je vivais. J'avais aucun mal à admettre que j'étais dysfonctionnelle, ça très clairement, hein, j'avais aucun souci là-dessus, mais dire que j'étais malade ça ne me convenait pas. Et donc au fil du temps, donc au début, il y a eu beaucoup de « je mets ça sur le tapis, j'en parle pas aux gens avec qui je vis », parce que de toute façon, quand j'annonce que je suis schizophrène, c'est « tu joues à la roulette russe », en fait, avec tes amis, avec tes relations amoureuses, etc. Et ça finit très souvent pas super bien, en plus. Donc beaucoup de honte, beaucoup de secrets. Ensuite, il y a eu une période où c'était un peu l'extrême inverse, où ok, quitte à me faire rejeter pour ça, ben je vais le porter comme un drapeau, comme ça au moins les gens se barreront vite, et puis basta, je vais faire peur aux gens, ça sera plus simple. Et après, j'ai retrouvé un équilibre où finalement j'ai fait la paix un peu avec ce mot-là, où voilà, c'est ok, c'est ce que je suis, etc. Et depuis quelques années, c'est plutôt j'en ai rien à foutre d'être décrite comme schizophrène, parce que, en fait, c'est les mots du médical et ça ne me convient pas. Et de plus en plus, je me décris comme entendeur de voix et comme une personne folle, finalement, et ça me paraît beaucoup plus convenir à l'expérience qui est la mienne. Voilà, une espèce de rapport comme ça, un peu en dents de scie, sur comment est-ce qu'on s'approprie cette identité-là, qui, comme tu disais, il y a beaucoup de choses qui sont projetées dessus sans qu'on sache ce que c'est vraiment.
Oui, oui, oui. Donc c'est intéressant, donc on peut explorer un peu les différents mots, les différents termes, et pourquoi il y en a certains que tu préfères à d'autres. Tu disais que tu avais beaucoup de mal au début avec le qualificatif de malade, donc ça c'est toujours le cas aujourd'hui ?
C'est toujours le cas aujourd'hui, alors c'est pour le coup c'est très personnel, et c'est pas nécessairement une volonté politique ou quoi, c'est vraiment juste personnellement, je me suis jamais vécue comme malade. Comme malade mentale, ça n'a jamais semblé...
Qu'est-ce que tu places dans ce mot-là ? Qu'est-ce que ce mot-là contient, signifie pour toi ?
C'est difficile à dire, je pense. En fait, il faudrait sans doute que tu poses la question à des gens qui le vivent comme une maladie mentale. Je pense qu'ils auraient une réponse bien plus pertinente que la mienne.
Mais donc, c'est un mot que tu fuis. Donc, c'est un mot avec lequel tu es mal à l'aise.
Pour moi, personnellement, oui. Après, quand je parle en général, je l'utilise aussi, parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent très bien dedans, donc ça ne me gêne pas de
D'accord.
l'utiliser par rapport à d'autres. Mais ce n'est pas ma réalité, en tout cas.
Comment est-ce que tu as le sentiment d'être perçu quand tu annonces autour de toi, tu arrives à trouver le courage et que tu te présentes, voilà, tu dis bah, je suis schizophrène, ou alors ou tu ne le dis pas, ou tu préfères dire que tu es entendeur de voix. Comment ça se passe?
Ça dépend des fois, ça dépend beaucoup. Après, je choisis beaucoup mieux mon entourage et je le prépare beaucoup mieux à cette annonce-là aussi qu'avant, donc ça aide. Mais au niveau des réactions, on a beaucoup de choses. Je peux te parler de mon ancienne coloc à l'époque qui avait, après cette annonce, caché tous les couteaux de l'appartement. Voilà, ce genre de réaction-là.
Ok, et ça te semble légitime?
Non, absolument pas. Ne faites
D'accord.
pas ça. C'est extrêmement violent et malaisant et tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc ça, c'est la réaction très caricaturale, mais je trouve c'est intéressant d'en parler parce que ça dit très clairement quelque chose qui est de l'ordre de la méfiance automatique. Où c'est des fois des gens que tu connais depuis des années ou avec qui tu as travaillé pendant un moment, d'un seul coup, tout ça disparaît. Parce que tu as dit le mot schizophrène, et d'un seul coup, ces personnes-là ne voient plus que tout ce que le monde remplit avec ce mot-là, donc les fictions, les médias, tout le côté menace, danger, violence, etc. D'un seul coup, il n'y a plus que ça qui existe, même si ça fait super longtemps que voilà, tu les fréquentes et que tu n'as jamais montré le moindre signe de tout ça. D'un seul coup, ça n'existe plus. Ça, c'est une réaction qui est malheureusement assez courante. Voilà, il y a ça. Il y a les gens qui pensent te faire un compliment, mais en fait sont psychophobes. Voilà, toutes les remarques du genre ah mais toi t'as pas l'air d'être malade, ou mais non toi t'es pas vraiment fou, ou t'es pas comme les autres. Voilà, tous ces trucs-là.
Ouais. Il y a pas longtemps, on m'a dit que j'avais pas l'air d'être autiste, tout ça, et
Voilà.
c'est toujours nul, c'est tellement nul.
C'est ça, toi-même tu sais, c'est exactement la même chose pour la schizophrénie. Et le pire, c'est que tu as envie de me répondre, mais en fait, si j'ai complètement l'air schizophrène, c'est juste que tu ne sais pas regarder et tu ne sais pas associer ces signes-là à la schizophrénie parce que les gens s'attendent à ce qu'un schizophrène soit quelqu'un qui se tape la tête contre les murs en hurlant
Ouais, c'est
H24.
la même chose pour les autistes.
On a un problème avec les murs. Alors que ça n'arrive que quand. Enfin, moi, ça m'arrive éventuellement quand je suis en crise, quoi. Et je suis pas en crise
Oui,
H24.
j'ai eu des autistes dans ma vie qui, effectivement, se font violence et se tapent sur les
Ouais.
murs, etc. Ce ne sont pas moins des personnes absolument formidables et intelligentes et brillantes, quoi. Donc, c'est faut
Tout à
pas
fait.
décrédibiliser les gens pour ça. Enfin, c'est.
Ça, et puis ne pas confondre un état de crise avec un état de tout le temps, en fait, c'est dans le nom,
Ouais,
c'est un état de crise, donc ça peut pas, sinon tu meurs, en fait, au bout d'un moment, c'est comme ça que ça marche. Donc il y a ces réactions-là, voilà, qui se croient gentilles, et qui en fait sont de l'ordre de la minimisation et de l'invisibilisation des difficultés de la personne. Finalement, parce que c'est un peu ça aussi, hein, quand on dit bah, t'as pas l'air schizo, t'as pas l'air autiste, c'est que ça permet de plus prendre en compte les difficultés qui vont être causées par l'un ou par l'autre. Tu as les réactions d'incompréhension, je dirais, de gens qui, pour le coup, ne comprennent pas justement ce que ça met derrière, finalement. Parce que quand tu dis je suis schizophrène, en fait, t'as rien dit. En vrai, tu ne dis pas tout ce qui est de l'ordre des difficultés cognitives, tu ne dis pas tout ce qui est de l'ordre des difficultés à comprendre tes propres émotions, tu ne dis pas ce que ça fait concrètement d'halluciner tous les jours ou d'être paranoïaque. Enfin, tout ça, tu le dis pas finalement. Et du coup, tu vois bien que les personnes en face comprennent pas complètement ce que ça implique. Tout en ayant conscience que ce qu'elles savent est sans doute pas très juste. Il y a des personnes qui ont cette honnêteté intellectuelle de se dire c'est sans doute pas ce qu'on me dit à la télé, ce que j'ai vu dans les films. Mais du coup, je sais pas ce que c'est.
Alors, si on s'intéresse au rapport que les gens en général, les gens dans la vraie vie, ont avec cette idée de la folie, généralement, il y a l'idée que la folie, c'est Être irrationnel, c'est ça s'oppose à la raison, c'est voilà, on est tous capables de réfléchir ensemble, de s'accorder sur ce qu'est la réalité, et les fous de leur côté, on peut même pas leur parler, on peut même pas faire société avec eux parce qu'ils sont pas dans le vrai, ils sont pas dans le rationnel. Qu'est-ce que tu penses de cette façon de présenter les choses?
Que ça témoigne surtout d'une grande ignorance de ce qu'est la folie. Parce que, comme tu dis, on oppose la folie à la raison, on oppose la folie rationnelle. Et en fait, surtout quand on fait ça, c'est qu'on considère la folie comme étant complètement déconnectée du monde. Comme si c'était quelque chose qui arrivait comme ça, ex nihilo, sorti d'on sait où, voilà, pas de chance, tu es fou, voilà. Ça sont des choses qui arrivent, et comme s'il n'y avait pas de cause, ou alors des causes biomédicales, ils aiment beaucoup ça, biochimiques, c'est la faute de nos cerveaux, enfin bref, comme s'il n'y avait pas de cause vraiment, alors que la folie est un produit du monde, finalement. Il y a des études historiques, sociologiques, qui montrent bien qu'on ne délire pas de la même façon, selon les époques, selon les lieux. Ça montre...
Un truc que j'ai pu entendre, c'est que les personnes schizophrènes en Inde, en Europe, en Afrique, pour celles et ceux qui entendent des voix, les voix ont tendance à dire des choses différentes selon la région du monde dans laquelle on est. Est-ce que c'est vrai?
Oui, complètement. T'as des choses là-dessus qui ont été montrées, et surtout, c'est pas du tout vécu de la même façon. J'avais vu des choses là-dessus aussi, où qu'effectivement, dans des pays comme l'Inde, en tout cas, plus généralement, des pays moins individualistes que les nôtres, le fait d'entendre des voix n'était pas vécu comme une agression de prime abord, parce que justement, on est moins centré sur le sujet unique, tout seul, etc., et bien délimité, et du coup, entendre des voix est finalement pas une violence. Et donc, effectivement, elles vont pas produire les mêmes discours. Déjà, on se rend bien compte que la folie, c'est un produit de la société, du monde dans lequel tu vis. Donc, à partir de là, ça n'a aucun sens de considérer la folie comme quelque chose de déconnecté du monde, en fait. La folie dit quelque chose du monde, c'est juste qu'elle ne le dit pas dans la même langue que le reste, en fait. J'aime bien penser la folie comme une langue, souvent. Je trouve que ça montre bien ce que c'est vraiment. Finalement, c'est comme si nous, on parlait pas tout à fait la même langue que les autres, mais ça reste une langue avec sa logique à elle, sa grammaire, sa structure, sa construction, ses références. Et donc, on peut en faire sens, c'est juste qu'il faut prendre le temps, et ça prend énormément de temps, de l'apprendre et de la comprendre. Et ce temps, on le prend assez peu, et du coup, fatalement, les personnes folles, elles sont vouées à être de plus en plus déconnectées, puisque le reste du monde ne fait pas ce travail d'apprentissage. C'est pas la personne qui est en souffrance, parce que la folie, surtout au moment où ça se déclenche, c'est beaucoup de souffrance. Ça aussi, souvent, on le passe sous le tapis. C'est pas la personne qui est en souffrance, qui est en détresse, qui va pouvoir faire ce travail et cet effort de se reconnecter au monde, en fait. C'est au monde de prendre le temps d'entourer cette personne-là, de lui donner une certaine sécurité et de tendre la main, finalement, et de faire l'effort d'apprendre sa langue pour comprendre ce qui se passe pour elle et la ramener dans le monde et la réinclure. On n'est pas à l'extérieur de la société juste parce que, voilà, on est à l'extérieur et c'est comme ça. On est à l'extérieur de la société parce que la société nous met à l'extérieur, en fait.
Oui, oui, ok. On va revenir sur le rapport de la société à la folie dans un instant, mais j'aimerais qu'on termine d'abord par définir quelques notions. Le délire, qu'est-ce que c'est? Ça se produit quand? Ça se présente comment? Comment est-ce que tu expliquerais ça aux gens?
Alors là aussi, c'est pas évident de l'expliquer simplement. Si je fais des articles qui prennent 15 minutes à lire, c'est justement...
Oui, c'est très cruel de ma part, désolé.
Oui, mais je vais essayer de faire au mieux. Un délire, comment ça se produit? En général, un délire, là encore, il arrive pas tout seul, c'est une réaction à quelque chose qui, pour la personne, est soit ingérable, soit c'est impossible d'en faire sens. Ça va peut-être être plus facile si je vous donne un exemple concret, et ça va être très facile que vous le compreniez, puisque vous l'avez tous vécu, à savoir la pandémie de Covid. Quand c'est arrivé, moi j'en étais déjà à un burn-out qui traînait depuis 1 an et demi. Donc j'étais pas super bien déjà de base, et j'arrivais un peu au bout du rouleau. Et je commençais à surtout ne plus comprendre ce qui se passait. Donc comme tout le monde, ce moment-là où on a commencé à confiner, on a commencé à entendre parler du Covid partout sans trop comprendre ce qui se passait. Je me rappelle plus comment c'était en Belgique, mais en France, il y avait les pénuries de masques, de gel hydroalcoolique. Enfin, c'était hyper chelou parce que d'un côté, on savait qu'il en fallait, mais on n'en avait plus. Enfin, et beaucoup d'injonctions contradictoires de la part du gouvernement. Et au bout d'un moment, c'était devenu tellement ingérable pour moi que quand Macron a annoncé on déploie l'armée pour aider à gérer sur le territoire, etc., le confinement, je suis devenue complètement délirante, j'ai décompensé. Où dans ma tête, c'était Macron envoie l'armée pour tous nous tuer parce que comme ça, les morts, ça transmet pas le Covid. Et donc voilà, je mangeais plus, je dormais plus, enfin c'était très compliqué. Et en fait, ce délire-là, il s'est mis en place parce que j'étais trop épuisée pour faire face et que, comme tout le monde, j'avais du mal à comprendre ce qui se passait. Et que de partir dans un truc comme ça, complètement délirant, alors c'est pas un choix conscient que tu fais, hein, c'est ton cerveau qui à un moment, là ça saute, il y a des trous, le cerveau humain n'aime pas qu'il y ait des trous, donc je vais les boucher.
Le délire a une fonction, boucher les trous pour retrouver une forme de contrôle sur
une
explication sur ce qui se passe, quoi.
Ouais. Une forme de contrôle, que ça ait du sens et que du coup tu puisses savoir comment agir. C'est-à-dire que je ne peux pas agir face à un virus, par contre face à un militaire, ça, d'un seul coup, c'est vachement plus gérable, tu vois, entre guillemets. Du point de vue de la folie, c'est plus facile, mais voilà, c'est pas tout, c'est des logiques.
C'est plus concret, disons.
Ouais, c'est vraiment ça le truc. Ça veut pas dire que empiriquement, en vrai, c'est plus facile, mais c'est plus saisissable, on va dire. Tu vois, savoir comment réagir face à un être humain qui a une arme, etc., c'est quelque chose sur lequel tu peux avoir prise. Savoir comment réagir face à un truc qui est invisible, qui est hors de ton champ de compétences, parce que moi je suis pas biologiste, je suis pas épidémiologiste, ni virologue, ni rien de tout ça, et en plus on me donne plein d'injonctions contradictoires dans tous les sens, ça c'est compliqué, et c'est insupportable, et c'est douloureux.
Et donc tu parlais donc de cette idée que Emmanuel Macron allait envoyer l'armée pour exterminer les gens.
Ouais.
Là, quand, enfin, présenté comme ça, ça évoque plutôt ce qu'on appelle la paranoïa. Est-ce que tu fais des ponts, est-ce que tu fais des liens entre
la paranoïa, si tu veux, c'est aussi une forme de délire finalement. C'est des mots différents, mais en fait, c'est très poreux tout ça. Et donc effectivement, d'accord, comme moi, je suis paranoïaque, les délires que je développe sont pour beaucoup avec ce fonctionnement-là en sous-texte, effectivement, hein, y a souvent une menace, il y a souvent un danger ou un complot ou une persécution. Ça revient très souvent chez moi. Donc c'est ce que je disais, il y a plein de familles de délires, donc ça, c'en est une. Mais il y en a d'autres. Mais la mécanique de base, c'est un peu ça.
J'aurais envie de présenter les choses comme ça. J'ai le sentiment que vivre en société ensemble, c'est... Alors, je vais enfoncer les portes ouvertes, désolé. C'est un peu partager une certaine culture, une certaine réalité commune, jamais entièrement évidemment, mais voilà, on vit ensemble et on a des références communes au réel et au fonctionnement de la société. Dès le moment où on considère que le fait de délirer, c'est finalement relativement banal, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Est-ce que ça, par définition, ne casse pas ce ciment, ce lien entre nous, puisque peut-être que mon voisin, il n'a pas du tout le même rapport à la réalité que moi, puisque il est peut-être concerné comme toi par il entend des voix ou il a le sentiment que la gravité ne fonctionne pas de la même manière que moi, ou tu vois. Est-ce que ça n'est pas vraiment un obstacle important au fait de faire société ?
Ça dépend ce que tu appelles faire société. C'est-à-dire que ça...
Il y a
plusieurs niveaux dans ce que tu dis. Donc, oui, il y a la porte ouverte qu'on fait société quand on partage une histoire commune, ou une culture commune, blablabla, où on vit ensemble par la force des choses parce qu'on est sur le même territoire et qu'on obéit aux mêmes lois. Donc ça, c'est une chose. Et finalement, c'est une chose sur laquelle on n'a pas tellement de prise, je dirais. Par défaut, je fais société avec tous les gens de mon immeuble, mais en fait, à part leur dire bonjour dans le hall, je leur dis pas grand-chose. Et donc, faire société avec eux, finalement, ça revient à ne pas sacrifier de chèvres sur mon balcon et ne pas écouter du black metal à fond à 3h du matin. Ça se limite à ça, finalement, à une espèce de respect commun. Alors qu'effectivement, partir du principe que faire société avec les gens que je côtoie vraiment, ma famille, mes proches, mes collègues, ces personnes-là, c'est différent finalement parce que on doit activement trouver une base commune selon laquelle fonctionner, qui dépasse un petit peu juste le simple vivre ensemble. Et donc ça, que la personne face à toi, elle soit folle ou pas, bah ça change rien finalement. Dans tous les cas, il faut faire ce travail de comment je peux fonctionner avec l'autre personne, soit parce que j'y suis obligée, soit parce que j'ai envie. Et dans tous les cas, c'est un vrai travail à faire, en fait. Enfin, c'est une illusion de se dire qu'on fait société facilement.
Non, jamais facilement.
Facilement.
Je vais peut-être prendre un autre exemple, parce que, bon, moi, comme toi, je parle extrêmement peu aux autres gens dans ce building d'appartement. mais voilà, si je reprends, par exemple, la situation de la pandémie, où là, ouais, faire société, ça voulait dire... Bon, il y a un virus, au tout début, c'était le confinement. Bon, il ne faut pas que le virus circule, on reste tous bien chez nous dans le but de... on s'accorde sur le fait qu'il y a cette règle, il y a cet intérêt commun, et on reste tous enfermés chez nous dans la mesure du possible. Si maintenant, on ajoute à l'équation des personnes pour qui mais cette réalité-là mais n'existe pas du tout, et ce virus est... n'est pas considéré comme tel ou c'est considéré comme étant voilà, pour une raison un délire, un fantasme quoi, mais en fait non, il faut surtout pas rester enfermé chez nous. Voilà, ça pose un, de nouveau ça semble être un obstacle, non? Qu'est-ce que t'en penses?
En fait, c'est ça que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'on est déjà de toute façon pas dans les mêmes réalités, en fait. C'est de toute façon, c'est une illusion de croire qu'on partage tous une réalité. C'est une illusion à laquelle on s'accroche parce qu'effectivement, je pense que c'est trop compliqué. On vit dans un monde qui est devenu trop grand pour pouvoir accepter que c'est qu'une illusion, mais c'est qu'une illusion. C'est pour ça que est-ce qu'on peut faire société avec des personnes qui sont folles et qui sont délirantes? La réponse, elle est oui. Puisque de toute façon, pour faire société, il faut pouvoir s'adapter à tous. Le principe d'une société, le principe d'un collectif, c'est d'inclure les gens, c'est censé protéger tout le monde. Et donc oui, on peut faire société avec des personnes qui vivent dans une réalité différente, puisque de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est déjà le cas. C'est juste que par contre, pour les personnes comme moi, pour les personnes folles, pour les personnes délirantes, c'est plus flagrant, on va dire. C'est sûr que quand j'explique que Macron envoie l'armée pour tuer tout le monde, bon, c'est peut-être un peu too much. Mais
tu dis c'est plus flagrant, et en même temps, on a commencé l'interview et tu m'expliquais que tu étais un schizophrène sous-marin et que les gens ne te savaient pas, ne savaient pas que tu entendais des voix ou que tu avais occasionnellement des délires. Donc finalement, ça s'est passé sans que les gens le sachent.
Parce que, effectivement, dans mon cas, je fais partie des schizophrènes qui passent bien. Parce que j'arrive quand même à savoir à qui je peux dire quoi. Donc, effectivement, à mes collègues, parce qu'à l'époque, je travaillais encore, j'ai juste dit que j'étais en dépression suite à un burn-out et que je prenais un peu du recul, que la crise Covid m'avait achevé. J'ai juste dit ça, par exemple. Et effectivement, j'ai la chance que quand je me mette à délirer, ça soit rarement à un point où je peux pas m'empêcher de dire les choses. J'arrive toujours, j'ai peut-être l'avantage d'être paranoïaque justement, j'ai un système de défense là-dessus qui est assez solide où effectivement j'arrive toujours à caché ça. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée à l'époque face au psy et qui a fait que j'ai pas fini en hôpital psy. Qu'effectivement, j'arrive à repérer ce qui est pas dans la bonne langue, si tu veux. J'arrive à savoir que ça, c'est la langue de la folie. Et du coup, on ne parle pas la langue de la folie avec ses collègues. On ne parle pas la langue de la folie devant un psy. On ne parle pas la langue de la folie avec qui que ce soit qui peut avoir du pouvoir sur moi, finalement. Et donc, j'arrive à le cacher.
Est-ce qu'il y a une forme de communauté des personnes folles, des personnes schizophrènes, où voilà, vous partagez un sentiment d'appartenance? Est-ce que ça existe, ou bien est-ce que vous êtes tous dans votre coin?
Alors, ça existe. Internet a beaucoup aidé à ça.
Oui, j'imagine.
Où effectivement, ça permet de trouver des gens comme nous, entre guillemets, et qui parlent la même langue. Et à qui je peux dire ces choses-là, et même si elles sont pas dans le même délire, elles peuvent comprendre quand même d'une certaine façon ce que je vis. C'est pour ça que ta question sur est-ce qu'on peut faire société avec des personnes délirantes, peut-être j'arrive pas à y répondre correctement ou m'expliquer, mais quand je vois qu'on arrive à faire communauté entre personnes folles qui sont dans des délires qui peuvent être très très différents, qui ont rien à voir les uns avec les autres, et qu'on arrive quand même à faire communauté, à trouver un socle commun, j'ai du mal à comprendre que ce soit pas possible pour les plus larges. Mmh. Mais donc oui, il y a des choses qui peuvent se dire entre personnes folles qui ne peuvent pas se dire, je pense, avec des personnes non folles. Pas parce que, enfin voilà, j'ai des proches qui sont pas fous et qui sont très capables de m'entendre, mais il y a toujours quelque chose qui échappe, je pense. Et c'est pas le cas avec d'autres personnes folles. On arrive quand même plus facilement à retrouver comment se parler et la logique de ça. Parce que je pense, c'est sans doute lié aussi, je pense, tant qu'on l'a pas vécu, ce que les gens comprennent pas face à un délire, c'est que c'est pas quelque chose sur lequel on a prise, au sens où il suffit pas de se dire ceci est délirant pour que ça s'arrête, en fait. C'est-à-dire que même moi, au stade où j'en suis, où je parais très stable et où très en maîtrise, je suis capable de voir, tiens, je suis en train de devenir complètement délirant, mais en fait, c'est pas ça qui fait que ça s'arrête. Et des fois, tu te vois délirer complètement et tu peux pas arrêter et tu peux juste te subir. Et ça, je pense que c'est compliqué pour les personnes non délirantes à comprendre que tu as justement ce qu'on se disait au début sur l'opposition folie-raison et qu'en fait, tu peux faire les deux en même temps. Et ça, les personnes folles le comprennent.
Alors, du coup, tu n'auras peut-être pas forcément envie de répondre, mais est-ce que, du coup, là, maintenant, il y a des choses que tu n'oserais pas, que tu n'aurais pas spontanément envie de me dire parce que je ne suis pas catalogué comme fou?
Sans doute moins parce que tu n'es pas catalogué comme fou que parce que tu es en train d'enregistrer ça et que tu veux le diffuser en public.
Ok. Tu n'es pas tombé dans mon piège.
Voilà, exactement. Je suis trop malin.
Ok, bah une autre question alors. C'est un exemple de délire que tu donnais dans un de tes articles et qui me semble vraiment bien illustrer ce que peut être un délire. C'est seulement si tu es d'accord pour en parler. Mais c'était la situation où tu avais le sentiment, tu avais l'impression d'avoir des pierres dans ton corps.
C'est une sensation qui revient plus ou moins régulièrement. En fait, c'est pour ça que c'est compliqué de te répondre sans question précise, parce que c'est une sensation que j'ai régulièrement et qui peut avoir différentes causes. L'une des fois où je m'en souviens le plus vivement, il y a quelques années, j'ai fait un kyste ovarien. Et sauf que, comme souvent, j'ai traîné à me faire soigner pour diverses raisons. Et en fait, la douleur, au bout d'un moment, c'était vraiment ça. J'étais persuadée d'avoir des cailloux dans mon corps, etc. Au point que j'ai fait des crises psychotiques à devoir me retenir d'aller chercher un couteau de cuisine pour les en sortir, histoire de régler le problème. Et c'est assez rigolo, parce que du coup, quand j'ai finalement fini par aller me faire soigner et qu'on a fait les échographies, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un caillou dans mon corps. Donc c'était assez étrange. Et des fois, la folie, elle fait ça, c'est-à-dire qu'elle te donne la réponse de façon extrêmement littérale. J'étais persuadée d'avoir des cailloux dans mon corps, je pouvais les sentir, etc. Et c'était effectivement ce qui se passait. C'est-à-dire que cette douleur-là qui empirait de mois en mois et que j'ai traîné à faire soigner, comme je traînais à la faire soigner et que je n'avais pas de réponse, la folie, elle a donné celle-là. On a des cailloux dans le corps. Après, c'est une sensation que j'ai régulièrement, qui peut être moins localisée. Plus généralement, c'est moins des cailloux dans le corps que des lames de rasoir dans les veines. J'ai des espèces de douleurs hallucinées comme ça et qui viennent souvent traduire soit des moments où je me sens lourd et où j'ai du mal à fonctionner. Et je pense que c'est une matérialisation très, très viscérale, pour le coup, d'un épuisement ou d'une difficulté que j'arrive plus à surmonter, mais comme je n'arrive pas à la nommer ou que je ne prends pas le temps de m'occuper de moi, ce qui est aussi un de mes problèmes, effectivement, ça finit par se traduire comme ça. Ou parce que j'ai subi une violence, enfin quelque chose que j'estime violent, que j'arrive pas à... C'est-à-dire que c'est tellement... C'est une violence qui est des fois tellement improbable que je n'arrive pas à intégrer qu'elle puisse être réelle, en fait. Ça me dépasse. Et du coup, quand je suis dans cet état-là, c'est une sensation que je peux avoir parce que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, bah, avoir des cailloux dans le corps, avoir des lames de rasoir dans les veines, ça existe. C'est quelque chose qui, d'un seul coup, prend une forme et c'est compréhensible. Ça n'a pas de raison d'être là, chimiquement parlant, biologiquement parlant. Mais ça, c'est saisissable, en fait. Je peux dire « j'ai mal », ça y est, je peux décrire cette émotion-là. L'émotion, et ce que je ressens, c'est « j'ai mal ». Je souffre, j'ai mal, voilà. Et le délire permet d'avoir quelque chose, en tout cas, que je puisse saisir et autour duquel se rassembler. Le temps qu'après, je puisse être dans un état d'esprit où j'ai le temps de m'arrêter pour me dire « ok, en fait... » il s'est passé ça, 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 et c'est pour ça que je ressens ça, etc. Voilà, ça prend le relais, si tu veux.
Tu reçois un signal de ton esprit, ton cerveau, tu as vraiment l'impression de percevoir quelque chose. Et puis, tu dois vraiment avoir des réflexes, avoir des prendre une initiative pour remettre ça en question, ce qui doit être super dur, puisque... moi, par exemple, je sais qu'il y a un micro devant moi, je sais que je suis en train de te parler. Si je dois arriver à remettre ça en question et me dire, mais en fait, peut-être que c'est le fruit de mon imagination, que Dandelion n'existe pas.
Ouais.
C'est assez violent.
Je te le confirme, en plus, je n'existe pas, je ne suis qu'une histoire que vous racontez les uns après les autres. C'est pas chance pour toi, là.
Oui, c'est vrai que tu as cette impression-là aussi. Quelque chose que j'ai pu lire encore une fois dans tes articles, c'est, je cite, les fous, les folles sont un symptôme, une conséquence. Nous sommes ce que le monde produit à force de violence, de dysfonctionnement, de rejet, de violence. C'est écrit deux fois violence.
Bah, je devais trouver que c'est vachement violent, le monde. Je ne me relis pas violence, forcément toujours, donc des fois, oui.
D'injonctions contradictoires et d'incohérences. Oui, on parlait tout à l'heure du fait que c'était largement un produit sociétal. Est-ce que toi, tu peux nous parler, dans ton cas personnel, est-ce que tu as le sentiment que ta nature fait d'entendre des voix, c'est le produit d'un monde violent? Est-ce que tu peux nous parler de ça?
Oui, j'ai clairement cette sensation-là. C'est aussi quelque chose que je vois avec toutes les personnes folles que j'ai pu croiser, soit ponctuellement, soit sur le long terme. Et en fait, quand on prend conscience, tu le vois d'autant mieux que les moments où tu redeviens extrêmement délirant, où la folie, elle reprend le pas, c'est là aussi souvent pas des moments sortis de nulle part. C'est-à-dire que je vois bien dans mon évolution les moments où je me suis stabilisée, c'est des moments où effectivement dans ma vie ça allait mieux. Et puis il y a eu des traumas qui se sont ajoutés, d'un seul coup ça s'est redégringolé, puis ça s'est restabilisé, et puis la précarité et des grosses galères et d'autres claques dans la gueule, et tu vois bien ce mouvement-là en fait se faire. Quand tu commences à y réfléchir, tu vois bien que c'est pas juste ton cerveau qui au pif envoie des neurotransmetteurs n'importe comment. Tu vois bien quand même que c'est une réaction à des choses qui se passent autour de toi.
Un exemple qui est intéressant, c'est le fait qu'aux États-Unis, les personnes les afro-américaines ont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de chances d'être diagnostiquées psychotiques que les blancs. Donc, est-ce qu'il y a une notion d'intersectionnalité ? Parce qu'on parlait voilà, de violence.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une notion d'intersectionnalité qui fait que les personnes racisées vont être davantage concernées par la folie ?
Il y a complètement une notion d'intersectionnalité, puisque déjà, les personnes non blanches sont effectivement plus exposées à la violence, puisque là, on est dans un monde qui est systémiquement raciste. Donc, plus exposées à la violence, plus exposées à la pauvreté, plus exposées à la précarité, et donc à ce genre de situation, qui produisent des maladies mentales, qui produisent de la folie. Donc déjà, il y a ça, effectivement, ce fait-là, que ce sont des populations qui sont bien plus fragiles, face à tout ça, plus fragilisées plutôt, je devrais dire, face à tout ça. Et tu as aussi, s'il y a ce surdiagnostic, c'est parce que dans l'imaginaire, la schizophrénie est associée à la violence, y compris chez nos amis les psychiatres, même s'ils se défendront du contraire, et que les personnes non blanches, et notamment les personnes noires, sont elles aussi présumées violentes, quoi qu'elles fassent, en fait. Donc il y a ces choses comme ça qui se mêlent et qui produisent ce surdiagnostic. Et je crois que j'avais vu par contre à l'inverse, j'ai pas les chiffres en tête, mais à l'inverse les populations noires sont sous-diagnostiquées au niveau de la dépression et l'autisme par exemple, parce qu'on considère que voilà ça peut, c'est un truc de blanc, elles peuvent pas ressentir ça, etc.
Ouais, ça me semble très crédible, en effet. Un truc dont moi je me souviens, puisqu'on parlait des États-Unis, c'est que quand je suis passé, c'était en 2017, je passais pendant quelques jours à San Francisco. Et donc c'est une ville assez particulière, puisque elle, la Californie est considérée comme étant relativement à gauche aux États-Unis, tout est relatif. Et donc, ils ont des programmes importants en termes de... Enfin, importants. Relativement importants pour des Américains vis-à-vis des personnes sans domicile fixe. Et donc, il y a beaucoup de villes américaines qui ont chargé des bus entiers pour envoyer tout leur SDF en Californie et à San Francisco en particulier. Et donc, quand je suis arrivé là, en fait, oui, il y a vraiment des quartiers qui sont remplis, remplis, remplis. Quand tu marches dans le Tenderloin la nuit, les rues sont remplies de SDF. Beaucoup de consommation d'héroïne en pleine journée, comme ça, dans la rue. Et un autre truc qu'on voit, et qui, je dois le confesser, m'avait mis assez mal à l'aise, c'est voilà, des gens qui se parlent tout seuls, qui ont clairement... qui semblent en tout cas avoir une conversation avec une autre personne dans leur tête. C'est quelque chose qui est assez inquiétant. Est-ce que pour toi, il y a une assistance à leur donner, ou au contraire, il faut les laisser tranquilles ?
Tu parles en tant que pouvoir public ou en tant qu'individu ?
Plutôt en tant que pouvoir public. En tant que système, en tant que politique, en tant que société.
Bah déjà, loger les gens, pour commencer, ouais. je comprendrai jamais qu'on ait autant de logements vides et que quand on prétend vouloir s'occuper des problèmes des SDF, la première logique soit pas loger les gens, en fait. Mmh. Tu as d'ailleurs des pays qui le font, et magique, ça
Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que disent les Américains quand on leur en parle, c'est souvent des « they want to be in the street ». C'est l'idée que si on leur propose, ils vont refuser, en gros, parce qu'il y a cette méfiance des autorités. Quoi.
Alors, c'est, encore une fois, deux choses différentes. Déjà, on a des pays qui le font, donc on a les chiffres, et on sait qu'effectivement, quand tu loges les gens, oui, tu résous quand même une bonne partie du problème. Ensuite, they want to be in the street. Oui, bon, ça, je suis pas sûre.
j'étais pas en train de défendre cette
idée. Non, je me doute, t'inquiète. Tu parlais de la méfiance des institutions, et oui, ça peut être un frein très sérieux, puisque ça va dépendre beaucoup de comment tu mets en place ton programme, c'est-à-dire que si effectivement tu loges les gens, mais que ça se fait sous couvert d'un flicage assez sérieux, effectivement, il y a des gens qui vont se dire que ben non, en fait, il n'y a pas d'intérêt à y aller. On voit ça déjà hein, dans certains programmes, même en France, où ok, on te file un logement, mais on passe tous les deux jours voir que tu as fait le ménage, ou enfin voilà, où on exige finalement de ces populations-là beaucoup plus que ce qu'on exigerait de personnes valides, pas droguées, pas malades mentales, etc. finalement. Donc effectivement, si ton programme d'assistance au logement se fait en échange d'un flicage assez extrême, bah oui, potentiellement les gens vont choisir la rue, mais c'est pas tellement la rue qu'ils choisissent, c'est juste de pouvoir vivre leur vie, en fait. Donc c'est compliqué dans ce sens-là. Et quand on le pense comme ça, on remet pas, on n'est pas en train de réfléchir au prix qu'on fait payer à ces personnes-là. C'est-à-dire que quand tu fliques les gens pour les loger, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est certaines personnes méritent d'être logées correctement, méritent d'avoir accès à une vie décente. Et quand on aura bien vérifié que oui, tu mérites tout ça, ok, on te donnera des droits. Finalement, des droits, ça se mérite. Ça me paraît être un énorme problème que juste on est une société et du coup on fait en sorte que tous les éléments de la société aient accès à une vie décente, puisque bah juste c'est comme ça en fait, les gens ont le droit d'avoir une vie décente et on n'a pas à gagner ce droit là en fait. Enfin voilà, c'est un peu ces problèmes là qui sont pas dits quand on dit que les gens choisissent la rue en fait. C'est quand même un petit peu plus compliqué que ça.
On pourrait parler l'espace d'un instant de ce que c'est d'être dans l'entourage, une personne concernée donc par la folie de manière générale, ça peut être schizophrène ou autre. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as eu l'occasion d'écouter des témoignages de ces personnes-là? Et qu'est-ce que c'est de vivre dans l'entourage de toi, par exemple?
Alors, je risque d'être assez acide dans ma réponse, je préviens d'avance, justement parce que c'est pas difficile d'avoir accès à ces témoignages-là, puisque c'est ceux qu'on entend en priorité, le témoignage des proches.
C'est le cas aussi pour les personnes autistes, où souvent on va interviewer les parents d'enfants autistes qui vont en parler comme étant voilà. des poids avec lesquels il faut vivre, etc. Je comprends tout à fait ce que tu dis, mais je ne voulais pas t'interrompre.
Voilà, donc toi-même, tu sais. Non, je n'écoute plus ces témoignages-là parce qu'en plus... ils sont douloureux, effectivement. Déjà, politiquement, parce que c'est à eux qu'on donne la parole en premier lieu avant de nous la donner à nous. Et donc, dans l'espace public, ça, de la prise de parole, ça mange de l'espace qui devrait nous revenir. Et que du coup, on ne peut plus parler de nous-mêmes. Et qu'en plus, souvent, comme tu le disais très bien, c'est quand même souvent des témoignages qu'on axe sur comment c'est pas facile. Ce qui vient renforcer d'autant plus le fait que nous sommes des personnes pas faciles. Et du coup, c'est compliqué parce que je veux bien croire que oui, c'est pas toujours facile de me fréquenter. Quand je suis en période de paranoïa, tu vois, j'ai pas pu, il y a une dizaine de jours, pendant une semaine, j'avais pas le droit d'interagir avec les gens. Donc j'ai systématiquement collé des vents à mon amoureuse, à des potes, etc. Donc je pense que c'est pas facile à vivre, tu vois, quand tu es rejeté comme ça sans raison et sans prévenir par quelqu'un que tu aimes, je l'entends tout à fait. Je pense que c'est pas facile à vivre, quand je fais une crise et qu'effectivement je peux me mettre en danger ou que dans d'autres cas je perds l'accès à la langue, donc je peux plus parler, je peux plus m'exprimer et je comprends pas quand on me parle, objectivement, oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais finalement, qui peut se targuer d'être facile à vivre, je ne sais pas. J'ai plein d'amis qui sont pas fous, pas malades mentaux, et que pourtant des fois, j'ai envie de dire, ils sont bien chiants aussi, hein, à leur façon. Donc je pense que c'est un peu, c'est des difficultés particulières quand tu fréquentes une personne folle. Mais je trouve que la façon qu'on a de toujours centrer dans les discours, est-ce que c'est difficile d'être avec une personne schizophrène, est-ce que blablabla, finalement, ça vient recentrer systématiquement le fait que c'est difficile. Et ça entretient une image qui est déjà, qui n'a pas besoin d'être entretenue, tout en effaçant les difficultés réelles. C'est-à-dire que pendant que tu demandes à nos proches si c'est difficile d'être proche avec nous, t'es pas en train de leur demander ce qui se passe bien ou ce qui a pu être mis en place pour que justement ça se passe bien.
Ouais, donc les personnes concernées sont effacées du, par exemple des médias ou de voilà de la place publique. De manière générale, on vous demande pas votre avis. C'est ça que tu dis.
C'est ça, voilà. Et c'est compliqué de le dire parce que en même temps.
Mais attends, mais c'est ça que tu considères être acide?
Mais parce que quand j'ai parlé publiquement de ça dernièrement, je te jure que j'ai eu des retombées, ça n'a pas été apprécié. Parce que d'un côté, j'entends tout à fait qu'effectivement, ça puisse être compliqué et que les proches puissent avoir besoin, elles aussi, d'espace pour parler de ces difficultés-là. Hein, moi aussi, hein, je suis proche de personnes folles, accessoirement. Et donc, oui, je sais que c'est pas toujours facile. Je le sais aussi, mais c'est comment, à un moment, il faut aussi que nous, en tant que personnes proches, en tant que proches de personnes folles, on comprenne que notre souffrance, c'est peut-être un trop grand mot, mais par rapport à tout ça, elle se place pas au même niveau que la personne qui est folle, en fait. C'est des choses qui sont complètement différentes. Hein. Et on n'a pas à tirer la couverture à nous, en tant que proches, pour parler des difficultés des personnes autour de nous, en fait. C'est pas... Non, ça ne se fait pas.
Oui. Alors, on va aborder donc la question qu'on n'a toujours pas vraiment... on a évoqué par détour, mais qu'on n'a toujours pas vraiment exploré, c'est-à-dire la question de la psychiatrie et des médecins et tout ça, dans un instant. Mais juste avant ça, j'aimerais revenir sur l'exemple que tu as donné en tout début d'interview. Tu expliquais que il fallait surtout pas retirer tous les couteaux des tiroirs. C'était ignorant et insultant, quelque part. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi une personne qui est paranoïaque, qui a très peur, qui peut développer des peurs, des pensées complotistes vis-à-vis de son ou sa colocataire. T'expliquais que tu as pu occasionnellement être un danger pour toi-même. En quoi est-ce que l'idée que une personne avec un profil comme celui-là soit un danger pour autrui, en quoi est-ce que c'est une notion problématique?
Elle est problématique parce qu'en général, c'est la pensée par défaut. C'est-à-dire que pour en revenir à cette histoire de ma coloc, je n'avais aucune pensée comme quoi elle allait m'agresser, etc., et que donc il fallait que je me défende. C'est elle qui a présumé, à partir du moment où j'ai dit que j'étais schizophrène, que j'étais dangereux. Et qui, du coup, en conséquence, a fait en sorte que je n'ai pas... entre guillemets, d'armes, parce que c'est vrai que les couteaux des étudiants, c'est connu en général pour être super couteaux, voilà.
Couteau à beurre.
Voilà, exactement. Que j'ai pas d'armes, elle a vraiment présumé ça, en fait, si tu veux. Alors que encore une fois, il y avait aucun indice. Et qu'éventuellement, dans mon cas, je vais généralement plutôt me faire du mal à moi qu'au reste du monde. Et ça a été décidé avec les voix il y a très longtemps, j'aurais le droit de faire du mal au reste du monde quand j'aurais fini de me massacrer moi. Donc normalement, le reste, vous êtes tranquille.
Donc, Il existe des personnes avec voilà, c'est un exemple un peu extrême, hein, mais les gens qui font des massacres de masse dans les écoles aux États-Unis, par exemple, sont souvent concernés par des soucis de
Non.
mal mental.
Non.
Mais non, attends, on va revenir là-dessus dans un instant, sûrement. Mais donc, en tout cas, tu n'es pas d'accord avec l'idée que par défaut, toutes les personnes folles soient violentes, dangereuses, quoi.
C'est même pas une question que je sois pas d'accord. C'est les chiffres qui le disent. En fait, il y a des statistiques qui existent, et c'est pour ça que je t'ai dit non en répétition. C'est que les études le montrent très clairement. Les personnes folles sont bien plus sujettes de violence que leur cause. Voilà, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est assez énorme. Et
Ouais,
quand
c'est vrai qu'on en
on
parle peu, ouais.
voilà, et on passe notre temps à le répéter, ces chiffres, ils existent. Et ensuite, quand on regarde, parce qu'on vient nous, les médias aiment bien, dès qu'il y a effectivement un schizophrène qui a tué quelqu'un, on en parle pendant X le temps, et on met bien l'accent sur ça. Par rapport à tous les crimes commis, les meurtres, etc., même là, les schizophrènes sont une minorité. On n'est que dalle. Les school shootings, les mass murders aux États-Unis, là encore, la plupart ne sont pas des malades mentaux. C'est des gens qui sont neurotypiques. Voilà. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que même quand tu es une personne folle qui commet une de ces atrocités-là, tu le fais pas parce que t'es folle. Tu le fais parce que t'as des idées de merde. Tout simplement, quand une personne schizophrène passe à l'acte, elle le fait pas parce que juste elle est schizophrène en fait. Elle le fait parce que elle a été socialisée de sorte à croire que oui, c'était une réponse. Là, la violence, c'était une réponse. Elle le fait parce qu'elle a une idéologie fasciste, accessoirement. Il y a beaucoup ça dans les meurtres de masse. Et ça, c'est pas la folie en fait. C'est différent. Tu peux avoir des idées de merde en étant schizophrène aussi. Hein. C'est pas incompatible, ça, malheureusement. Mais c'est pas la folie qui fait que t'es un raciste ou qui fait que t'es fasciste et que tu te dis que ouvrir le feu dans un lieu public, c'est ok. C'est pas ça le lien en fait.
Ok, donc tu dis ces cas-là sont extrêmement minoritaires. Donc on peut peut-être imaginer qu'il y a des situations où ça a été un facteur, mais c'est jamais l'essentiel de la réponse, quoi.
C'est ça. On va pas nier que ça existe, puisque c'est un fait, hein, ça existe. Tout simplement parce que les criminels, t'as un peu toutes les populations qui sont représentées, donc il est logique que t'aies aussi des schizophrènes dans le lot. Mais on est finalement pas plus nombreux que dans la société civile, quoi.
Alors, je il y a un instant, tu évoquais l'idée qu'on ait envie de quelque part diagnostiquer, pathologiser les personnes qui ont des comportements problématiques, en l'occurrence les gens qui font des mass murders. Peut-être que je pars complètement à 3 km du sujet, hein, tu me dis ça n'a rien à voir. Mais un truc qui est assez récurrent, j'ai l'impression, et enfin, en tout cas, je pense en France et en Belgique, c'est on va croiser une personne avec un comportement problématique. Typiquement, ça va être son ex, et on va dire que cette personne est. Et alors, on va sortir des pseudo-diagnostics de pervers narcissique, des choses comme ça. Est-ce que ça, là encore, c'est pas. Je veux surtout pas mettre une réponse dans ta bouche, mais est-ce que c'est pas emblématique d'un système, d'une société où on diabolise les problèmes de santé mentale et dès qu'un comportement est jugé désagréable ou pas accepté dans notre société, on va le pathologiser? Est-ce qu'on a tendance à surpathologiser les comportements dans
Ouais,
notre culture?
ah, très clairement. On est vraiment, on pathologise à l'extrême. Et Alors, il y a plein de choses qui se croisent hein, dans les différents exemples que tu dis. Le classique de l'ex-folle, en général, ça marche bien dans un sens. C'est bien folle, F-O-2-L-E, hein, généralement.
Donc, ça, le pervers narcissique, si c'est un homme aussi. Ouais.
Voilà, le pervers narcissique va plutôt être un homme, et c'est un autre problème. L'ex-folle, on a vraiment tout ce côté extrêmement sexiste qui se traduit là, où on ne prend pas en compte que le comportement qu'on a considéré comme de la folie était causé par les comportements du mec, en général. Et, mais si tu dis que c'est ton ex et qu'elle était folle, du coup, toi, t'as rien à te reprocher, tu vois. C'est bon, l'ex, elle était folle, moi, je suis clean. Donc ça, c'est plutôt un produit du sexisme, effectivement, cette pathologisation-là. Le pervers narcissique, ça fait couler beaucoup d'encre, parce qu'effectivement, c'est pas un diagnostic qui existe. Bon, après, ceux qui existent, c'est de la merde aussi, mais c'est un... c'est un niveau plus tard. Nous, on y vient doucement, mais... mais parce qu'en fait, quand tu creuses, là, c'est pareil. En fait, c'est beaucoup de comportements merdiques, mais de beaucoup de... mais qui sont pathologisés plutôt que d'être reconnus comme un problème de socialisation et donc un problème de société, finalement. De comment on demande aux gens d'agir, comment on les fait se comporter, etc. Donc c'est un vaste problème. La pathologisation, en général, c'est un vaste problème, d'autant que ça se fait aussi pour les idées politiques. Tu vois, quand tu veux décrédibiliser ton adversaire, la première chose qui vient, c'est de le traiter de schizo ou d'autiste, quoi. Le truc à la mode.
C'est effectivement la première idée qui me vient, en effet.
Voilà, tu vois, c'est un classique. Là, le truc à la mode depuis quelques semaines sur le Twitter français, c'est de dire que Macron, il a un TDI parce qu'il a changé d'avis sur je sais pas quoi.
Oh.
Tu vois, c'est classique bullshit, etc. Voilà, ça n'a...
Je comprendrai jamais comment les gens arrivent à employer des mots. Ils doivent être conscients du fait qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, qu'ils n'y connaissent rien. Mais arriver à employer des mots alors qu'ils sont conscients du fait qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire.
Oui, t'as raison, ils ne savent pas ce que ça veut dire au sens où ils ne savent pas ce que ça représente vraiment. Par contre, ils savent que c'est quelque chose qui est mal vu dans notre société, mm-hmm. qui est décrié ouais. et qui est considéré comme mauvais, qui est péjoratif. Et que donc, si tu accuses ton adversaire en premier, tu sais ça, par contre, il faut tirer la carte en premier, hein, sinon ça ne marche plus. Mm-hmm. On ne peut pas faire celui qui dit qui est avec une insulte psychologique. Ça ne marche pas. Voilà, si tu arrives à tirer cette carte-là en premier, tu as décrédibilisé ton adversaire, justement, parce que comme on le disait au début, on est considéré comme des gens qui ne pouvons pas réfléchir, qui ne pouvons pas appartenir à la société, qui ne pouvons pas y apporter quoi que ce soit, et qui, du coup, ne peuvent pas produire un avis mesuré, pertinent, intéressant, etc. Et donc, t'as ça pour les personnes publiques, mais faut savoir aussi que, la pathologisation des idées politiques, ça se fait aussi à notre niveau. C'est-à-dire que, justement, si une personne folle, une personne malade mentale, commence à dire peut-être que quand même les institutions, ça craint, ça nous maltraite, etc., les soignants vont dire « Ah ouais, mais vous dites ça parce que vous êtes dans le déni, ou parce que vous êtes paranoïaque, etc. » Tu vois, c'est pas des vraies idées, c'est nous qui délirons. Ça marche aussi dans ce sens-là.
Alors, j'avais promis qu'on terminerait en parlant de psychiatrie, d'antipsychiatrie. Comment est-ce que tu as le sentiment d'être perçu par, par exemple, les personnes qui t'ont diagnostiqué?
Alors ça date et puis surtout j'ai fait en sorte de plus être confrontée à la psychiatrie depuis, mais à l'époque, donc j'avais 20 ans tout juste, je me suis sentie extrêmement infantilisée, avec cette sensation que si je le laissais faire, parce que moi à l'époque, pour remettre dans le contexte, donc j'étais suivie par un psychiatre, qui a décidé, donc c'était pendant une année où j'étais revenue chez mes parents, parce que j'étais vraiment plus en état de faire des études, ni de vivre tout seul, enfin, complètement pété les plombs. Donc pendant un an, j'ai vécu chez mes parents comme ça. Donc j'étais suivie par un psychiatre qui a décidé que je devrais aller passer une demi-journée par semaine en hôpital de jour. Donc je sais pas si vous avez ce truc-là en Belgique. Comment décrire les hôpitaux de jour? C'est un peu une garderie géante pour adultes. Le but du jeu, officiellement, c'est que tu de te socialiser, c'est-à-dire que tu gardes un lien, tu vois, que tu sois pas trop replié sur toi-même. Et autant, tu vois, nous, dès qu'on fait un truc, c'est pathologique, autant dès que tu le fais avec un soignant, c'est thérapeutique. Donc, un après-midi par semaine, j'allais là-bas. Et pendant une moitié d'année, c'était, je faisais l'atelier promenade. Donc voilà, on allait se promener pendant 2 heures. Et l'autre partie de l'année, c'était l'atelier jeux de société, où les soignants ont décrété que puisque j'aimais bien les mots, j'aimais bien le Scrabble. Spoiler alert, je détestais le Scrabble déjà avant. Aujourd'hui, si vous me faites jouer au Scrabble, je vous fais bouffer le plateau.
Je ressens une grande solidarité pour toi maintenant que tu as parlé du Scrabble.
Merci. Voilà. Et donc l'hôpital de jour, donc j'y suis le plus jeune, parce que j'ai 20 ans, mais la plupart des gens qui y sont ont il y en a deux qui avaient la trentaine, et après tous les autres avaient 40, 50 ans et plus. Donc voilà, c'est très étrange. Et
Là tu parles de ton expérience en hôpital de jour, ouais. Comme quoi c'était pas super agréable parce que tu devais jouer au Scrabble, mais ce que je voudrais explorer avec toi, c'est surtout la façon dont le corps médical... je t'en prie.
Ce que je voulais parler, j'en parle parce que justement, c'est le regard, c'est justement cette sensation-là de « c'est comme ça que me voient les psys, en fait ». On t'envoie là et en fait, tu fais rien. Le temps, il passe et t'es juste là, tu joues au Scrabble ou tu vas te promener dans la ville. Et on n'attend rien d'autre de toi, en fait. Et on ne t'ouvre aucune autre porte. Et tu sens bien que les soignants ne voient pas d'autre avenir pour toi que tu viens la semaine prochaine. Il y a cette sensation d'impasse et d'infantilisation, mais sur tout. Parce que du coup, je devais fêter mes 20 ans et ils se sont tous mis, on va faire le menu ensemble et tout. Bah non, je t'ai rien demandé, en fait. Voilà, puis pas d'alcool, etc. Enfin, t'as vraiment cette espèce de truc très, très collant.
Infantilisant, oui.
Voilà, hyper infantilisant. C'est vraiment ça, le regard qu'avaient les soignants sur moi à cette époque-là, c'était cette sensation-là. T'es infantilisé et on ne voit pas d'avenir pour toi de toute façon. Et tu vas juste être coulé dans cette espèce de truc-là où t'es sage et où le temps passe. Mais tu n'es pas tout seul renfermé, alors c'est
Maintenant, si on parle alors de l'autre aspect de la question, qui est, on n'en a pas parlé depuis le début, je suis certain que beaucoup de gens sont surpris et se demandent, mais est-ce que Dandelion prend des médicaments?
Non.
Oui, implicitement, on avait compris que non. Mais est-ce que tu peux parler de ton rapport à la médication et pourquoi tu ne prends pas de médicaments du coup?
Mon rapport à la médication est très mauvais puisqu'il relève du traumatisme chez moi. Donc j'ai été sous antipsychotique pendant 4 ans et ça m'a laissé quelques séquelles. Il est mauvais parce que c'est par là que je me suis rendu compte qu'on s'en fichait de ce que je disais, de ce que je ressentais. C'est-à-dire qu'à la toute base, c'est ma médecin qui me les a prescrits en premier lieu. Elle était vraiment partie sur une idée que c'est ponctuel le temps que je reprenne pied, etc. Et donc, tant que ça a été elle qui gérait ça, ça a été effectivement ponctuel. Pendant un an et demi, j'étais sous traitement plusieurs mois, on arrêtait et je repartais après en crise, etc. Et on a vraiment géré comme ça. Et quand je suis passée chez le psychiatre, déjà, on a augmenté les doses régulièrement. Là où c'était drôle, c'est que plus je disais que ça me rendait malade, plus on augmentait les doses. Ironiquement, plus on augmentait les doses, plus je faisais de crise. Mais du coup, leur réponse était de continuer à augmenter les doses. Je disais donc que ça me rendait malade et personne m'a cru, en fait. Personne m'a
écouté. Donc on est encore dans une situation d'infantilisation, du coup.
C'est de l'infantilisation et c'est vraiment ce côté « nous, on sait ». Et si toi, tu oses critiquer le traitement, c'est que tu es en déni de ta maladie, en fait.
Oui. Alors, est-ce que Bon, alors je crois comprendre, hein, en écoutant le témoignage, que c'est loin d'être une situation isolée, ce que tu nous racontes. Inversement, est-ce qu'on pourrait imaginer des médecins compétents qui sont à l'écoute de leurs patients, leurs patientes, et qui font du coup ne pas infantiliser leurs patients, être à leur écoute, et alors atteindre un scénario où on trouve... une situation confortable pour le patient et où la médication sert à quelque chose, ou bien est-ce que la médication, ça n'est jamais pour le confort de la personne concernée et toujours plutôt pour celui de la société, des médecins, de l'entourage?
Alors là encore, c'est une question complexe, je vais essayer de répondre au mieux. La légende raconte que oui, ce type de soignant existe.
J'en ai pas parlé quand je t'ai envoyé l'invitation, mais j'ai interviewé il y a 2 ans, je crois, un docteur, un psychiatre qui travaille justement principalement avec des personnes schizophrènes. Et évidemment, j'ai pas parlé avec ses patients, mais voilà, le discours qu'il tenait me semblait pas trop... je retire ce pas trop. Ne semblait pas du tout... méprisant, réifiant, infantilisant, et voilà, il avait plutôt l'air de défendre des valeurs qui me semblaient assez humaines. Mais je veux bien croire que ce soit rare.
Alors, je vais pas parler pour cette personne parce que j'ai pas pu écouter cette interview, puis que je veux pas juger, puis je veux pas te mettre en porte-à-faux non plus. Mais c'est compliqué. C'est-à-dire, la particularité de la psychophobie, et notamment dans la psychiatrie, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour beaucoup, nos soignants n'ont pas l'impression de nous infantiliser ou de décider pour mon psychiatre, si tu veux. C'était quand même... J'étais pas non plus tombée sur quelqu'un de spécialement maltraitant, ni rien, en fait. Il essayait plutôt de m'écouter. Par contre, il avait cette certitude qu'il savait mieux, et qu'effectivement, si je tenais ce discours-là, c'est parce que... voilà, c'était propre à ma folie, et que si on avait le bon traitement, ça allait passer. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette optique-là, en fait, qui pensent pas en se disant, qui se disent pas consciemment, cette personne-là, elle dit de la merde, ou elle peut pas le dire, mais qui partent du principe que puisqu'on est malade mental, on ne peut pas avoir suffisamment de recul sur ce que l'on vit pour pouvoir prendre une décision. Typiquement, moi, le retour que j'ai souvent, que ce soit sur Twitter ou avec d'autres soignants, c'est que je suis trop lucide pour être fou, en fait. Et c'est un truc que les gens ont beaucoup, au point que je connais des gens qui ont effectivement dû simuler des crises devant un psy pour avoir le droit d'être pris au sérieux et d'être suivi correctement.
Quand tu dis ça, ça fait écho aux personnes autistes qui sont pas pris comme tels et qui, du coup, au moment d'avoir une chance de peut-être, parce que pour certains, pour nombre d'entre nous, on cherche un diagnostic pour obtenir les aides. Et alors, effectivement, il y a ce truc où on va se forcer à regarder par terre pour avoir l'air autiste. Il y a ce truc, effectivement.
Où tu accentues des côtés, des traits. Caricaturaux que t'as pas,
qui correspondent.
Voilà, donc il y a ça aussi de notre côté. Donc il y a ce problème-là, déjà de base. Autre problème qui vient se rajouter, c'est que même si on part du principe que les antipsychotiques peuvent être effectivement utiles à un moment donné pour une personne, le truc c'est que c'est censé être ponctuel. C'est des traitements qui sont censés être ponctuels. Les études menées sur ces traitements le disent clairement, c'est les antipsychotiques, c'est 6 mois maximum. Après, au mieux, ça ne sert plus à rien.
Quand tu disais ponctuel, au pire, disais ponctuel, j'imaginais genre pendant un épisode psychotique, pendant une crise ou quoi, mais toi tu dis jusqu'à 6 mois, c'est plus que ponctuel ça.
Oui, c'est plus que ponctuel là aussi, mais c'est-à-dire qu'entre 6 mois et toute ta vie,
vois la ponctualité. Tout est relatif.
Tout est relatif. Après, effectivement, oui, il y a des personnes, ça peut être encore sur du plus court terme, tu vois, mais en tout cas, ce que les études disent, c'est 6 mois maximum. Après, au mieux, ça ne fait plus rien. Au pire, ça empire la situation. Moi, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on augmentait les doses, je faisais des crises encore plus violentes, etc. C'est des trucs qui sont documentés, tu vois, par la science psychiatrique elle-même. C'est assez femme, c'est assez formidable. Et le truc, c'est qu'on n'a pas cette utilisation-là, ou très très peu, chez très peu de soignants, on a cette utilisation-là, puisque l'idée que, voilà, et c'est pour ça que tu m'as posé la question d'ailleurs, l'idée c'est un schizophrène, pour qu'il soit stable, il ne peut pas vivre sans médicaments. Et ça, c'est une idée qui existe, même chez les soignants en psychiatrie, elle est inscrite. Et c'est moi qui suis délirant après, alors que c'est littéralement des gens qui vont, au contraire, à l'opposé de ce que leur propre science a prouvé, tu vois. Parce que cette idée-là, elle l'emporte. Donc c'est extrêmement compliqué, puisque nous-mêmes, quand on vient chercher ces soins, tu vois, si t'as besoin à un moment d'antipsychotique pour vivre ta vie, on te met dans la tête que ça sera toute ta vie. Et c'est compliqué d'aller à l'encontre de ça si t'as pas les ressources. Parce que voilà, tu te dis, le soignant, c'est mieux, c'est son travail, normalement, de savoir. C'est pour ça que tu vas le voir. Tu peux pas avoir ce recul-là. Il y a le fait que ce sont des traitements extrêmement addictifs. Ça, c'est pareil, on le dit assez peu. Et du coup, quand tu arrêtes un traitement addictif, il y a ce qu'on appelle les effets de sevrage. Et si tu le sais pas, en fait, ça ressemble énormément à ta pathologie de base. Effectivement, quand tu arrêtes tes antipsychotiques, si tu n'as pas fait un sevrage correct, tu vas te retrouver à refaire des crises, etc., ou re-avoir des pulsions suicidaires. Et du coup, c'est souvent interprété comme tu vois bien que tu en as besoin, en fait, alors que c'est un effet de sevrage. Donc, tu as ça qui joue, et qui fausse un peu la donne, parce qu'on n'est pas correctement accompagné là-dedans. Et le dernier point, tu disais, est-ce que du coup, c'est bénéfique pour la personne ou est-ce que c'est que pour l'entourage ? Effectivement, tu vois, quand t'additionnes tout ça, c'est compliqué, d'autant qu'il faut ajouter que on vit dans une société qui est quand même très utilitariste, quand même très basée sur ta capacité à produire et à faire des choses, et que du coup, si t'es dans une situation où t'as besoin d'aller travailler, on va rien te proposer d'autre, en fait. Et donc le traitement, tu vas le prendre parce que t'as besoin d'aller travailler et que t'as pas d'autres options. Donc c'est extrêmement compliqué. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont dans des situations compliquées où ils voudraient pouvoir arrêter les traitements, mais ne peuvent pas parce que c'est trop compliqué de mettre en place, enfin de supporter les effets de sevrage, ou parce que de toute façon, il faut aller au travail dans 2 jours, en fait. Et du coup, tu peux pas cumuler un sevrage et aller au travail. Et tu peux pas apprendre à vivre avec tes délires, avec tes hallucinations. Ça prend du temps aussi, et ce temps-là, la société, elle te le donne pas, ou très très peu. Donc c'est compliqué. Donc au final, oui, tu te retrouves à prendre des traitements parce que toi t'en as besoin. Et en plus de ça, il y a une pression énorme, une pression sociale qui est donnée. Moi effectivement, quand j'ai dit à mes proches que j'arrêtais les médicaments, ça a été compliqué. Parce que pour eux aussi, même en étant bienveillant, ils pensaient que j'en avais vraiment besoin. Et t'as souvent aussi des discours où tes proches te préfèrent sous médicaments. Enfin, t'as vraiment des gens qui se sont entendus dire ça. Où la gestion de ta maladie mentale passe par les médicaments, quoi. Pas.
Est-ce que toi, tu n'as pas eu l'occasion personnellement d'entendre la phrase « Je te préfère sous médicaments ». Mais est-ce que tu as le sentiment de, quand tu as été sous médicaments, d'être une personne, d'exister de manière foncièrement différente? Est-ce que tu te reconnais quand vois sous médicament?
Ma mémoire de l'époque, elle est explosée, à la fois à cause de la folie, parce que du coup, c'est vraiment l'époque où j'étais le plus délirant, et à la cause des médicaments. Parce que ce qu'on dit pas, c'est que les médicaments ont un impact cognitif assez lourd, en fait. Donc moi, ils ont niqué ma mémoire sur cette période-là, et d'autres trucs au passage. Et surtout, j'avais plus, encore moins d'émotions, et j'étais coupée d'une partie de moi. Donc non, je ne me reconnais pas, parce que tout ce qui restait, c'était ce qui me faisait suffisamment souffrir pour réussir à dépasser la barrière chimique. Et j'ai vraiment des souvenirs comme ça où je me retrouvais à pleurer devant une amie en disant « mais j'ai plus d'émotions, je ressentirai plus jamais rien ». Enfin, et en fait, c'était extrêmement dû aux médicaments qui ont complètement anesthésié tout ça. Donc non, je me reconnais pas quand j'y repense, je me reconnais pas de l'époque où j'étais sous médicaments. Et en plus, moi, ça me rendait extrêmement délirant. J'étais convaincue d'avoir une espèce de bouillie noire, de pourriture noire, et je suis allée très très loin pour réussir à la virer, en fait, de mon sang, quoi. Donc c'est... Paradoxalement, moi, ça m'a fait énormément de mal et j'ai failli en mourir, quoi.
Et donc, on parlait du fait que, pour l'instant... Enfin, d'ailleurs, je sais plus si on l'a dit, mais en tout cas, on en a parlé en off. Pour l'instant, donc, tu ne travailles pas. Tu as mis en pause la rédaction de ta thèse pour l'université.
Je suis sur la rédaction de ma thèse. Okay, je n'ai plus de travail salarié. On va le dire
comme ça. Ok. Donc, si on imagine ta vie, c'est toujours difficile, hein, mais dans quelques années, quand il sera sans doute mieux de percevoir un salaire, est-ce que ça va être un challenge pour toi, ou est-ce que tu sens que tu vas pouvoir y arriver de le faire donc sans médicaments?
Alors, sans médicaments, oui, c'est pas la difficulté, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant, moi, que j'ai arrêté, et j'ai toujours réussi jusque-là à éviter, même si j'ai régulièrement recroisé des médecins qui avaient décrété que ça résoudrait tous mes problèmes depuis. Donc ça, c'est pas le sans médicaments qui sera une difficulté. La question que je me pose, moi, pour l'après-thèse, c'est effectivement dans quelles conditions je peux aller travailler pour que ça se passe bien, en fait. Et ça, la réponse, elle est pas évidente, puisque les domaines dans lesquels je peux travailler sont des domaines qui sont en train de se faire détruire et surprécariser. Du coup, c'est pas évident de se projeter. Je sais la différence par rapport à il y a quelques années, c'est que je sais maintenant que je suis handicapée, qu'il faut que je le prenne en compte. C'est une réalisation qui est relativement récente dans mon parcours, et que je peux pas travailler plus d'un mi-temps par semaine, par exemple. Donc c'est comment je fais pour orchestrer tout ça. Ça, j'ai pas encore la réponse. Mais c'est un problème pour le moi du futur, après la soutenance.
Ouais, un problème pour le toi du futur. Mais donc voilà, on sent que ça va être une question importante et à laquelle tu n'as pas encore la réponse. Est-ce que, donc on a largement dépassé les 70 minutes, comme tu le vois, est-ce que il reste un sujet que tu voudrais aborder?
Oui, au final, on n'a pas eu le temps de parler d'antipsychiatrie à proprement parler.
Ah ben oui, je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Oui, ben vas-y, explique-nous.
Voilà, en quelques mots, puisque comme tu l'as dit, on a déjà très largement dépassé le temps. L'idée de l'antipsychiatrie, c'est finalement de se débarrasser de l'institution psychiatrique comme elle est, puisque finalement, c'est de se rendre compte que le système psychiatrique est un système de contrôle plus qu'un système de soins. C'est un système qui vise la normalisation de l'individu et non pas son bien-être. Ce sont deux choses qui sont souvent très très différentes. Et du coup, ce que les militants anti-psychiatrie visent, c'est plutôt d'avoir des systèmes de pérédance, mais alors pas encore comme ce qui existe aujourd'hui, hein, c'est encore très insuffisant, mais où on aurait des vrais lieux de repos, des vrais groupes communautaire qui puisse permettre de prendre en compte les difficultés des individus et de leur donner tout ce qu'on a pu évoquer, à savoir le temps, pour comprendre comment ça fonctionne, hein, quand tu es autiste, quand tu es schizophrène, comment tu fonctionnes, te donner ce temps-là, te donner les ressources de fonctionner en tant que toi, et non pas en tant que toi qui serais suffisamment normalisé pour pouvoir rentrer dans les rouages de la société capitaliste et productiviste. Et d'avoir des vraies solidarités comme ça, ça demande aussi un changement de société assez profond, on va dire. Et donc l'antipsychiatrie n'est pas refuser de soigner et d'aider les gens, contrairement à ce qu'on me dit régulièrement. C'est une autre façon de le faire, et c'est de le faire réellement en prenant la personne en compte, et non pas en cherchant à la casser pour qu'elle rentre dans un moule.
Et est-ce que tu dirais que dans les personnes qui t'accompagnent, parce que j'imagine que tu as une psy ou un psy, est-ce que dans les personnes qui t'accompagnent, tu retrouves un système qui te plaît? Est-ce que tu es satisfait à ce niveau-là ou est-ce que tu cherches encore?
Donc moi j'ai une psychologue, mais ce que j'aimerais vraiment, c'est de pouvoir vraiment avoir des, ouais, ce que je disais, des lieux de repos, puisqu'il y a des fois où je vais vraiment très très mal, tu vois. Ce qu'on disait tout à l'heure, le début de la pandémie, le premier confinement, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer chez mes parents, mais j'ai frôlé l'internement sous contrainte. Et donc, ce dont moi j'aurais besoin, c'est effectivement d'avoir des lieux où tu vas un jour, 2 jours, tu pètes ton câble dans un endroit qui soit un minimum. Non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il y a un moment, tu peux pas éviter de faire ta crise, en fait. Tu peux pas éviter la décompensation. Et du coup, c'est l'idée, ce serait de pouvoir mettre en place des stratégies de damage control et de pouvoir faire cette crise-là, cette décompensation-là, dans un lieu où tu serais vraiment à l'abri et où si voilà, tu pètes ta pile, et ben après tu vas pas être attaché dans une chambre d'isolement surmédicamenté et tout, en fait. Des fois, il y a besoin, en fait, que le système explose pour pouvoir repartir. Et donc on a besoin de lieux où ça pourrait se faire et où du coup après éventuellement, ben voilà, si tu t'es mutilé, ben on t'aide à te soigner, on vérifie qu'il n'y a pas trop de dégâts. On voit avec toi si t'es quoi faire pour que tu repartes à peu près sainement, etc. Enfin, voilà, juste ça. Et pas d'être dans un truc hyper de contrôle plus, plus, plus. Enfin, voilà, c'est pas idéal, quoi.
Très bien. Mais merci beaucoup, Dandelion. On espère que le message est passé, que les autorités sont très inspirées en t'écoutant. On y croit. Est-ce qu'il y a un endroit où les auditeurs et les auditrices peuvent te retrouver et te lire?
Bah, sur mon Twitter, ça semble le plus efficace.
Ouais, je vais mettre le lien alors en description.
Voilà, sur mon Twitter et puis sur mon Medium, où c'est là que j'écris régulièrement.
Super. Et donc tu écris principalement au sujet de la folie, la psychophobie et les sujets qu'on a abordés aujourd'hui.
Voilà.
Très bien. Mais merci beaucoup. Et on se retrouve alors dans 2 semaines pour un prochain épisode. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura permis d'élargir vos horizons. Donner la parole aux personnes dont on parle mais qu'on n'entend jamais, ça fait très clairement partie de la mission que je me suis donnée. Et qui sait, peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont arrêter d'employer le mot schizophrène de manière péjorative et sans en connaître la définition. Qui sait? J'ai aussi trouvé très intéressant la discussion qu'on a eue sur la tendance qu'on a à pathologiser les comportements toxiques. C'est quelque chose que je vois assez fréquemment autour de moi, mais non, désolé. Je sais que c'est dur, mais voilà, les connards toxiques sont avant tout des connards toxiques et pas des malades mentaux. Je le rappelle, dans un mois, je donnerai une formation sur la discipline de l'interview. Ça aura lieu à Saint-Gilles, mais grande nouvelle, on a fait en sorte que la formation soit joignable en distanciel. Donc si vous êtes loin de Bruxelles et que vous n'avez pas la possibilité de venir en personne, foncez, le lien est en description. Dans 2 semaines, je recevrai un invité politique de premier plan. Ensuite, comme promis, j'essaierai d'explorer au plus vite les sujets comme les troubles du comportement alimentaire, l'antisémitisme, et aussi faire un édito supplémentaire. À très vite, bye!